morte. Le danger était à nos portes. J'ai fait ce qu'il faut pour qu'enfin il sache ce qu'est un bon voisin. Et n'écoutant que ma fureur, en lettres de sang, votre honneur, à la plume noire je signerai un bon français. J'entends déjà sur la plaine le vol noir de jet, toujours les corbeaux reviennent. J'entends déjà sur la plaine le vol noir de jet, toujours les corbeaux reviennent. Entendez-vous sur la plaine le vol noir?
Il est 5h à Rabat, 6h à Paris, vous écoutez Radio France Internationale. Le retour du journal présenté par Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Sébastien Lecornu est au Maroc.
Le Premier ministre français, 12 membres de son gouvernement sont arrivés à Rabat dans la soirée. Et au programme aujourd'hui, notamment une réunion de haut niveau avec l'exécutif marocain. Espagne-Argentine, ce sera l'affiche de la Coupe du Monde masculine de football. Les Argentins se sont fait peur hier soir avant de renverser le match face à l'Angleterre. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle nuit de frappe entre les États-Unis et l'Iran. La France qui fait face à une nouvelle canicule et qui en profite pour présenter sa stratégie décarbonation à l'horizon 2050. Et puis la Chine, où la croissance n'a jamais été aussi faible depuis le Covid. On va tenter de comprendre pourquoi. Après un court passage au Qatar, où il est allé présenter les condoléances de Paris après la mort dimanche de l'ancien émir Ahmad Ben Khalifa Al Thani, le Premier ministre français Sébastien Lecornu est donc arrivé au Maroc hier soir à Rabat, où il a été accueilli par son homologue. Une visite de 2 jours dans le royaume avec l'objectif de consolider le rapprochement entre les deux pays. Sébastien Lecornu n'est pas seul, accompagné de 12 membres de son gouvernement. Alors quel programme? On voit ça depuis Casablanca avec notre correspondant Mathias Reynal.
Cette visite au Maroc fait partie du premier déplacement à l'étranger de Sébastien Lecornu depuis sa prise de fonction il y a 10 mois. À ses côtés, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui était déjà en visite à Rabat au mois de mai, mais aussi Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Premier rendez-vous à l'agenda de Sébastien Lecornu aujourd'hui, un entretien bilatéral, tout d'abord avec le chef du gouvernement marocain, Aziza Khanouch. Les deux responsables retrouveront ensuite les membres de leur gouvernement pour une rencontre de haut niveau, France-Maroc. Cela faisait 7 ans que ce type de réunion n'avait pas eu lieu. C'est une nouvelle manifestation du rapprochement entre Paris et Rabat, de ce partenariat d'exception renforcé qui lie les deux pays depuis 2024 et qui doit conduire à l'adoption d'un nouveau traité bilatéral. Les relations entre la France et le Maroc sont au beau fixe depuis que le président Emmanuel Macron a reconnu la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental. Un autre point majeur à l'ordre du jour, une potentielle visite royale en France de Mohamed VI. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Et quelques heures avant cette visite, le journaliste franco-marocain Alim Rabet a été remis en liberté au Maroc. Il avait été arrêté dimanche soir à son arrivée à l'aéroport de Tanger. Lui qui, depuis plusieurs années, n'avait plus mis les pieds dans le royaume où il a, dans le passé, été condamné pour diffamation, pour des propos sur les Sahraouis, des camps de Tindouf dans le sud-ouest de l'Algérie. Cette fois encore, son arrestation était liée à des publications en ligne jugées diffamatoires. Et d'ailleurs, l'enquête se poursuit. Je ne fais que du journalisme, je ne fais pas de politique, a-t-il dit après sa remise en liberté. Lui pourrait bien être condamné à 30 années de prison. C'est en tout cas ce qu'a requis hier l'avocate générale de la cour d'assises de Paris à l'encontre d'Eugène Rwamucho. Cet ancien médecin rwandais est poursuivi pour son rôle présumé dans le génocide des Tutsis en 1994, notamment pour avoir supervisé l'ensevelissement de milliers de victimes dans la région de Boutaré. Parole à la défense aujourd'hui et la décision devrait être connue dès demain. En première instance, il avait été condamné à 27 ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. RFI, les 6h03 à Paris, 1h03 du matin, donc à Buenos Aires, où ils sont sûrement nombreux à ne pas du tout avoir l'intention de dormir. L'occasion est trop belle. L'équipe argentine est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde masculine de football. Victoire hier soir en demi, 2-1 contre l'Angleterre. L'Albi Céleste, tenante du titre, s'en sort franchement très bien. Elle qui a longtemps été menée au score par les Anglais. À Atlanta, où avait lieu le match, correspondance d'Edouard Maille.
Après une première mi-temps serrée, sans but, c'est l'Angleterre qui ouvre le score à la 55e sur un centre de Morgan Rogers qui trouve l'ailier Anthony Gordon. Mais l'Argentine s'accroche, sereine, et égalise à la 85e grâce à une frappe puissante d'Enzo Fernandez à l'entrée de la surface de réparation. Et puis une tête miraculeuse de Lautaro Martinez à la 2e minute du temps additionnel. En voyant l'Argentine en finale, Lionel Messi lui a répondu présent, une performance à la hauteur de l'événement, offrant les deux passes décisives à son équipe. Dans les tribunes, Carolina s'essuie le visage avec son maillot.
Je suis très émue, je pleure, je suis en larmes, je n'ai plus de voix. C'est un rêve devenu réalité.
Sans en avoir peur pour autant, Mathias sait que la finale contre l'Espagne sera difficile.
Ça va être compliqué parce que c'est une très bonne équipe, mais l'Argentine ne renonce jamais et a l'envie.
Matt, lui, quitte rapidement les tribunes. Il est venu soutenir son équipe, l'Angleterre.
Je suis dévasté, complètement anéanti. Être un fan de l'Angleterre est presque une expérience traumatisante. C'est difficile, vraiment difficile.
Maintenant, direction New York pour l'Argentine pour la finale. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Et oui, Espagne-Argentine, ce sera dimanche. Alors l'Argentine conservera-t-elle son titre? A-t-elle mérité cette qualification? On attendra vos analyses, vos réactions, vos pronostics aussi tout à l'heure dans Rappel sur l'actualité avec Juan Gomez. Ce sera après le journal de 8h en temps universel. Et puis la petite finale, celle pour la 3e place, ce sera samedi. Et ce sera la France face donc à l'Angleterre. Les nuits se suivent et se ressemblent au Proche et au Moyen-Orient. Pour la 5e d'affilée, les États-Unis et l'Iran se sont affrontés. Des explosions ont été entendues dans le nord et l'ouest de la République islamique où les médias d'État annoncent que le système de défense antiaérienne a été activé dans la capitale Téhéran. Washington a aussi annoncé avoir tiré sur un pétrolier qui tentait de forcer son blocus des ports iraniens. De son côté, l'armée iranienne revendique des frappes de drones contre des installations militaires américaines en Jordanie. Et puis un petit peu plus tôt dans la soirée, les sirènes d'alerte aérienne avaient été déclenchées à Bahreïn, tandis que l'armée du Koweït disait répondre à des attaques hostiles de drones. Des pertes humaines potentiellement considérables, disent ce matin le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations et pour cause. Les deux agences onusiennes annoncent ce matin que plus de 500 réfugiés Rohingyas pourraient avoir récemment péri dans deux naufrages au large de la Birmanie. L'intensification du conflit et la dégradation de la situation humanitaire en Birmanie poussent un nombre croissant de personnes à entreprendre de périlleuses traversées, disent ces agences, pointant également du doigt le manque d'aide et de perspectives dans les camps de réfugiés au Bangladesh. Aux États-Unis maintenant, l'ICE est hors de contrôle, dénonce la coalition No Kings, qui regroupe des centaines d'organisations opposées à Donald Trump. Elle parle d'une nouvelle manifestation effroyable de la dérive autoritaire de son administration après la mort de deux personnes en moins d'une semaine, tuées par des agents de la police anti-immigration. Selon des sources au département de la sécurité intérieure des États-Unis, citées par plusieurs médias locaux, les contrôles routiers de cette police auraient été suspendus. Sauf que pas du tout, réplique Trump sur les réseaux sociaux. Pour lui, c'est l'un des outils les plus importants et les plus efficaces de l'ICE dans sa lutte contre la criminalité. Et pas question, dit-il, de les suspendre. Dans l'état du Maine, où a été tué l'une des deux personnes en début de semaine, on a du mal à y voir très clair, Mélissa Barra.
Suspendre les contrôles de véhicules, former les agents de l'ICE ou les équiper de caméras au corps. Les pistes se multiplient et se contredisent aussi au rythme des volte-face du président des États-Unis. Dans l'état du Maine, où un citoyen colombien a été mortellement blessé par balle lundi dans la ville de Biddeford, on suit de près les annonces.
Oui.
Quand ils ont dit qu'il n'y aurait plus de contrôle routier, nous ne savions pas ce que ça sous-entendait.
Mufalo Shitam est directrice de la coalition pour les droits des migrants du Maine.
Nous avons une hotline d'assistance. Elle nous permet de savoir en quelques jours comment les mesures sont appliquées. Nous réclamons plus de transparence ainsi qu'une enquête de justice. D'ailleurs, même après cette mort, l'ICE a poursuivi ses opérations de détention.
En janvier, face à l'ampleur des manifestations et à l'insistance du gouverneur, l'ICE a annoncé avoir mis fin, je cite, à ses opérations renforcées dans le Maine.
L'ICE n'est jamais parti. Les gens se font arrêter, mais plus de manière visible. Ça se passe tôt le matin, tard la nuit ou durant le week-end. Là, quelqu'un a perdu la vie, alors on a du mal à les croire.
Selon les chiffres de mars dernier, plus de 500 personnes ont été arrêtées par l'ICE en un peu plus d'un an.
Un sujet signé Mélissa Barra. Les États-Unis où une agence climatique doit publier ce jeudi un rapport sur les événements météorologiques extrêmes et sur leur lien avec le changement climatique. C'est en réalité une mise à jour d'un précédent rapport publié il y a 10 ans. Elle n'a même pas encore été rendue publique, cette mise à jour, que déjà des élus républicains remettent en doute sa légitimité, réclamant notamment que le parcours professionnel de tous les auteurs soit détaillé dans un rapport où plusieurs, dans un pays où plusieurs agences scientifiques ont été démantelées depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Et bien plusieurs ONG ont engagé des actions en justice pour obtenir des réparations financières de la part des plus gros pollueurs industriels américains. En France, le réchauffement climatique, il se ressent plus que jamais en ce moment, alors qu'une nouvelle vague de canicule est en train de s'achever et que des incendies ont ravagé des milliers d'hectares, notamment dans la forêt de Fontainebleau près de Paris. La ministre française de la transition écologique le dit, nous vivons une situation de sécheresse exceptionnelle par sa précocité et son intensité, affirme Monique Barbu. Et c'est justement pour lutter contre les causes du réchauffement climatique que le gouvernement français a présenté hier sa stratégie pour une France neutre en carbone à l'horizon 2050. L'idée, c'est d'accélérer parce qu'on n'y est vraiment pas pour l'instant, Nicolas Pichon-Levenbruck.
Moins 3% en 2024, moins 2% en 2025. Le troisième opus de la stratégie nationale bas carbone est clair. La baisse des émissions de gaz à effet de serre va devoir s'accélérer et vite. Ce nouveau plan prévoit une baisse annuelle de 5% et propose un vaste champ de mesures pour y parvenir. Concrètement, le gouvernement va publier d'ici la fin de semaine un décret qui fixera un plafond d'émissions par secteur. Par exemple, les transports devront réduire leurs émissions d'un quart d'ici 2030 en doublant la part du fret ferroviaire, en remplaçant les autobus à essence par leurs équivalents électriques. Grande nouveauté, le plan fixe aussi un objectif en empreinte carbone qui prend en compte les émissions liées à l'ensemble des produits consommés par les Français, même ceux fabriqués à l'étranger, et cette empreinte devra être divisée par 4 d'ici 2050. Malgré tout, quelques incohérences demeurent, pointent du doigt les associations. Le plan prévoit par exemple une augmentation des émissions liées au transport international.
Nicolas Pichon-Levenbruck. 4,3% de croissance au deuxième trimestre en Chine. Un chiffre publié hier par le Bureau national des statistiques et qui ferait rêver de nombreux pays, notamment en Europe. Sauf que pour la Chine, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Déjà parce qu'on est loin des 5% attendus et puis parce que jamais la croissance du pays n'avait été aussi faible depuis la crise sanitaire du Covid-19, Pierre-Olivier.
Si les exportations chinoises se portent bien, la consommation intérieure et les investissements sur son territoire accusent le coup. Et ce sont les gouvernements locaux qui sont montrés du doigt par les économistes. Et derrière eux, la crise de l'immobilier que traverse la Chine. Pendant plus de 20 ans, l'accès à un logement pour des centaines de millions d'habitants a représenté un moteur essentiel de l'économie chinoise. Clé de voûte du système, les gouvernements locaux vendaient des terrains aux promoteurs, les chantiers engendraient de la croissance et les recettes générées permettaient d'investir dans des infrastructures comme des routes, des ponts ou des chemins de fer qui rendaient à leur tour de nouvelles zones constructibles. Mais à trop bâtir, les prix de l'immobilier ont fini par baisser et la valeur du patrimoine des ménages aussi. Ajoutez à cela l'incertitude économique mondiale, les Chinois prudents deviennent plus fourmis que cigales et préfèrent épargner. Pour tenter de juguler la baisse de la croissance, le gouvernement central entend changer son fusil d'épaule. Plus que sur l'immobilier, c'est désormais sur la haute technologie et des emplois qualifiés que Pékin mise pour relancer sa croissance et sa consommation intérieure.
Précision de Pierre-Olivier. Un tout petit mot de cyclisme pour vous dire que la 12e étape du Tour de France s'élancera tout à l'heure du circuit Nevers-Manicourt. Un petit peu moins de 180 km, direction Chalon-sur-Saône. Le Slovène Tadej Pogacar domine toujours le classement général avec plus de 3 minutes 30 d'avance sur le Norvégien Jonas Vingegaard. Merci d'écouter RFI, 6h13 à Paris.
Gaëtan Plenet.
Avant le retour de l'actualité africaine, on sera en Inde pour parler de la dot et des meurtres de femmes qu'elle entraîne, une étude le montre. À suivre aussi notre invité culture et puis prendre soin de ses pieds, c'est important et ce sera notre conseil santé du jour. Mais d'abord, on part en... en Suède. Là-bas, c'est l'été, et qui dit été dit colo, colonie de vacances. C'est très répandu dans le pays, contrairement d'ailleurs à d'autres comme la France, où leur fréquentation a été plus que divisée par deux depuis les années 80. En Suède, pas du tout. Les colos, c'est presque considéré comme un droit. Elles sont d'ailleurs largement financées par les communes et elles restent un pilier des politiques sociales et de la mixité, pilier précieux dans un pays où la criminalité recrute des ados de plus en plus jeunes. Chaque année, des milliers d'enfants suédois partent quelques semaines en pleine nature sans leurs parents qui ont tout à fait confiance dans le système. Notre correspondante Ottilia Ferré a passé une journée à Alnas, une colonie près d'Uppsala, gérée par la branche suédoise du mouvement de jeunesse YMCA. Reportage.
La colo a vraiment la cote en Suède.
C'est aussi amusant d'être ici que de voyager à l'étranger. On peut se baigner et manger de la glace tous les jours.
Ces enfants de 7 à 15 ans perpétuent une tradition familiale. Beaucoup reviennent ici chaque été, comme leurs parents avant eux. Trampoline, escalade, canoë et kayak, toboggan, la liste des activités est longue.
On saute tous ensemble.
Près du mur d'escalade, on trouve Roem, 20 ans, qui passe son cinquième été ici comme animateur.
Nous avons ce qu'on appelle le style Alnas, une sorte de charte que nous reprenons chaque semaine avec les enfants. L'idée est simple, traiter les autres comme on aimerait être traité soi-même. Cela vaut pour les enfants, comme pour les animateurs.
Dans l'entrebâillement de la fenêtre de la petite cabane à glace au mur jaune, on trouve Jan, 17 ans. Comme beaucoup de ses camarades, il a lui aussi passé ses étés ici avant d'y travailler.
J'adore travailler ici. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'été sans Alnas. On ne fait pas ça pour gagner de l'argent, mais parce que c'est amusant. Voir un enfant s'amuser simplement parce que je suis là pour l'aider, ça représente énormément pour moi.
Y ninguno se 3 si vous avez fait le 1 parce que vous êtes satisfait de votre message, ou faites le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous étiez satisfait d'avoir fait le 2 parce que vous n'étiez pas satisfait de votre message.
Principe actif, c'est aussi un répondeur. Au 02 32 62 57 32.
Je vais y arriver, hein. Je vais faire un message.
Sortie, événement, résultat sportif, coup de gueule, info. Bref, le répondeur, c'est aussi votre zone d'expression radiophonique.
Paris, t'as eu un appel qui t'a perturbé.
Mais non, c'est pas un appel qui m'a perturbé.
Allô ? Je suis tout nu et je suis en train de me perturber.
Les messages sont diffusés à l'antenne dans la matinale à 8h15. Alors prenez possession des ondes et laissez vos messages après le bip. Au 02 32 62 57 32. On attend vos messages.
J'ai le bout des doigts qui colle un peu. C'est la baba qu'on a partagé tous les deux. Elle a un t-shirt avec un lapin dessus pour lui mettre le grappin dessus. J'ai des trucs grappins dessus. Elle est dure à pécho comme une peluche dans une cache. Machine, j'ai du cash et un flash de rhum dans la poche. Depuis le début, on se cherche, on joue à